Vous allez écouter l'émission Mot de passe.
Il était une fois, sur une planète bleue, quelque part aux confins de la galaxie, une onde sonore, pas comme les autres. Pour cause, elle diffusait du livre acoustique. Un casque, un transmetteur, un voyage illimité s'offre à nos sens. Bonjour à tous et bienvenue sur votre radio RTVFM 102.2. Le PIB intérieur brut flanche, mais pas pour le livre audio qui a connu un surcroît de ventes lors du premier confinement. Merveilleux! Aurais-je trouvé la technique pour vous faire lire? Alors, laissez-vous tenter par l'expérience. Parce que nous sommes dans notre deuxième période de confinement 2020, que les protocoles sanitaires de protection nous éloignent, il a fallu trouver une parade pour vous présenter cette émission de novembre. Et c'est en pensant à la compagnie Mahaloum, qui fait un travail d'artiste remarquable, que je vous propose 20 minutes de lecture arrangée. Le choix du livre a été très simple. Il fallait un roman court, intense, puissant, qui fait un écho à la violence du monde contemporain. La voix d'une femme, et quelle femme ? Marceline Loridan Evans. Et la lettre qu'elle adresse à son père 70 ans plus tard. J'espère susciter l'envie de lire la suite, et merci à la maison d'édition Grasset et Fasquel. Bonne écoute. J'ai été quelqu'un de gay, tu sais, malgré ce qui nous est arrivé. Gay à notre façon, pour se venger d'être triste et rire quand même. Les gens aimaient ça de moi, mais je change. Ce n'est pas de l'amertume, je ne suis pas amère. C'est comme si je n'étais déjà plus là. J'écoute la radio, les informations. Je sais ce qui se passe et j'en ai souvent peur. Je n'y ai plus ma place. C'est peut-être l'acceptation de la disparition ou un problème de désir. Je ralentis. Alors, je pense à toi. Je revois ce mot que tu m'as fait passer là-bas. Un bout de papier, pas net, déchiré sur un côté, plutôt rectangulaire. Je vois ton écriture penchée du côté droit et 4 ou 5 phrases que je ne me rappelle pas. Je suis sûre d'une ligne, la première. Ma chère petite fille. De la dernière aussi, ta signature, Shloim. Entre les deux, je ne sais plus. Je cherche et je ne me rappelle pas. Je cherche, mais c'est comme un trou et je ne veux pas tomber. Alors, je me replie sur d'autres questions. D'où te venait ce papier et ce crayon? Qu'avais-tu promis à l'homme qui avait porté ton message? Ça peut paraître sans importance aujourd'hui, mais cette feuille pliée en 4, ton écriture, les pas de l'homme de toi à moi, prouvaient alors que nous existions encore. Pourquoi est-ce que je ne m'en souviens pas? Il m'en reste Shloim et sa chère petite fille. Ils ont été déportés ensemble, toi à Auschwitz, moi à Birkenau. L'histoire, désormais, les relie d'un simple tiré. Auschwitz, Birkenau. Certains disent simplement Auschwitz, plus grand camp d'extermination du Troisième Reich. Le temps efface ce qui nous séparait. Il déforme tout. Auschwitz était adossé à une petite ville. Birkenau était dans la campagne. Il fallait sortir par la grande porte avec son commando de travail pour apercevoir l'autre camp. Les hommes d'Auschwitz regardaient vers nous en se disant « C'est là qu'ont disparu nos femmes, nos sœurs, nos filles. Là que nous finirons dans les chambres à gaz. » Et moi, je regardais vers toi en me demandant « Est-ce le camp ou est-ce la ville ? Est-il parti au gaz ? Est-il encore vivant ?» Il y avait entre nous des champs, des blocs, des miradors, des barbelés, des crématoires et par-dessus tout, l'insoutenable incertitude de ce que devenait l'autre. C'était comme des milliers de kilomètres, à peine trois, disent les livres. Ils n'étaient pas nombreux les détenus qui pouvaient circuler de l'un à l'autre. Lui, c'était l'électricien. Il changeait les rares ampoules de nos blocs obscurs. Il est apparu un soir. Peut-être était-ce un dimanche après-midi. En tout cas, j'étais là. Quand il est passé, j'ai entendu mon nom. « Rosenberg ?» Il est entré. Il a demandé Marceline. « C'est moi ?» Je lui ai répondu. Il m'a tendu le papier en disant « C'est un mot de ton père. » Nous n'avions que quelques secondes. Nous pouvions être tués pour ce simple échange. Je n'avais rien pour te répondre. Ni papier, ni crayon. Les objets avaient déserté nos vies. Ils formaient des montagnes dans ces hangars où nous travaillions. Les objets appartenaient aux morts. Nous étions les esclaves. Nous n'avions qu'une cuillère coincée dans une couture, une poche ou une bretelle et un lien autour de la taille, un bout de tissu arraché à nos habits ou une fine corde trouvée par terre pour y accrocher notre gamelle. Alors, j'ai sorti la pièce d'or que j'avais volée au triage des vêtements. Je l'avais trouvée dans un ourlet, dissimulée comme un trésor du pauvre, et je l'avais enveloppée dans un petit bout de tissu. Je ne savais pas encore quoi en faire, où la cacher, ni comment l'échanger au marché noir. Je l'ai tendue à l'électricien. Je voulais qu'il te la donne. Je me doutais qu'il la volerait. Tout le monde volait au camp. Dans le bloc, on entendait toujours des cris « On m'a volé mon pain !» Alors, j'ai bafouillé dans un mélange de yiddish et d'allemand appris au camp que s'il comptait la garder, qu'il t'en donne la moitié. L'as-tu reçu ? Je ne saurai jamais. J'ai lu tout de suite ton mot, j'en suis sûre. Je ne l'ai montré à personne. Mais j'ai dit autour de moi « Mon père m'a écrit ». D'autres mots de toi me hantaient alors. Ils recouvraient tout. Tu les avais prononcés à Drancy. Nous ne savions pas encore où nous allions. Comme tous les autres, nous répétions « Nous allons à Pitchipoy ». Ce mot yiddish qui désigne une destination inconnue et sonne doux aux oreilles des enfants qui le répétaient pour parler des trains qui s'en allaient. « Ils vont à Pitchipoy », disaient-ils, articulant pour se rassurer ce que les adultes leur avaient soufflé. Mais je n'étais plus une enfant. J'étais grande, comme on dit. Dans ma chambre au château, j'avais changé le décor, interrompu mes rêves, congédié mes jouets, dessiné des croix de Lorraine sur le mur et accroché au-dessus de mon bureau bleu, ciel, les portraits des généraux de la Première Guerre, Hoche, Foch, Joffre, abandonnés dans le grenier par le précédent propriétaire. Tu te rappelles que la directrice de l'école d'Orange t'avait convoquée ? Elle avait trouvé mon journal intime noirci de rumeurs et de reproches contre la surveillante générale et certains professeurs, mais surtout véritable brûlot gaulliste. « Votre fille va passer en conseil de discipline. Il vaut mieux que vous la retiriez de l'école », avait-elle dit pour nous protéger. Elle t'avait laissé mon journal. Tu l'avais lu probablement et tu y avais découvert que j'étais amoureuse d'un garçon. Je le retrouvais dans le bus qui nous ramenait à Bolène. Après l'école, je lui donnais chaque semaine mes tickets de pain. En échange, il faisait mes devoirs de maths. Il n'était pas juif. Tu ne m'avais plus parlé pendant 2 mois ensuite. Nous avions atteint le moment de nous disputer, comme un père et sa fille de 15 ans. Alors, à Drancy, tu savais bien que rien ne m'échappait de vos airs graves à vous les hommes, rassemblés dans la cour, unis par un murmure, un même pressentiment, que les trains s'en allaient vers le Grand Est et ces contrées que vous aviez fui. Je te disais, nous travaillerons là-bas et nous nous retrouverons le dimanche. Tu m'avais répondu, toi, tu reviendras peut-être parce que tu es jeune. moi, je ne reviendrai pas. Cette prophétie s'est inscrite en moi aussi violemment et aussi définitivement que le matricule 70750 sur mon avant-bras gauche quelques semaines plus tard. Elle devint, malgré moi, une redoutable compagne. J'aimais les premiers mots quand, une par une, disparaissaient mes amis et celles qui ne l'étaient pas. Puis je la repoussais. Je détestais ce « moi, je ne reviendrai pas » qui te condamnait, nous séparait, semblait offrir ta vie en échange de la mienne. J'étais vivante, encore, et toi. Il y eut ce jour où nous nous sommes croisés. Mon commando était allé casser du caillou, tirer des wagonnets et creuser des tranchées sur la nouvelle route pour le crématoire numéro 5. Nous avancions, comme toujours, en rang de 5. Nous revenions vers le camp. C'était un peu après 6 heures du soir. Sais-tu que ce moment n'appartient qu'à nous? Qu'il figure dans les souvenirs et les livres de ceux qui ont été des survivants? Car tous les rêves de retrouvailles ont jailli dans le camp de la mort industrielle. Tous les corps des nôtres encore debout ont frémi lorsque nous nous sommes vus. Sommes sortis de nos rangs et avons couru l'un vers l'autre. Je suis tombée dans tes bras, tombée de tout mon être. Ta prophétie était fausse. Tu vivais. Ils auraient pu te juger inutile dès l'arrivée. Tu avais un peu plus de 40 ans, une mauvaise hernie à l'aine qui t'obligeait à porter une ceinture, une longue cicatrice au pouce héritée d'une blessure à l'usine. Mais tu étais encore assez fort pour être leur esclave, comme moi. Ton rôle était de vivre, pas de mourir. J'étais tellement heureuse de te voir. Nous retrouvions nos sens, le toucher, le corps aimé, cet instant nous coûterait cher. Mais il interrompait pour quelques précieuses secondes le scénario implacable écrit pour nous tous. Un SS m'a frappé, traité de putain, car les femmes ne devaient pas communiquer avec les hommes. « C'est ma fille !» tu criais, tout en me soutenant encore. Shloïm et sa chère petite fille. Nous étions vivants, tous les deux. Ton raisonnement ne tenait plus, l'âge n'y faisait rien. Aucune logique n'existait dans le camp. Seul comptait leur obsession du nombre. On mourrait tout de suite ou un peu plus tard, on n'en sortirait pas. J'ai juste eu le temps de te donner le nom de mon bloc. Je suis au 27B. Je me suis évanouie sous les coups et lorsque j'ai repris conscience, tu n'étais plus là. Mais j'avais dans la main une tomate et un oignon, que tu venais de me glisser en douce, ton déjeuner sûrement. Je les ai cachés aussitôt. Comment était-ce possible? Une tomate et un oignon. Ces deux légumes cachés contre moi rétablissaient tout. J'étais de nouveau l'enfant, et toi le père, le protecteur nourricier. L'ombre de ce chef d'entreprise qui fabriquait des tricots dans une usine de Nancy, l'ombre de cet homme un peu fou qui acheta pour nous tous un petit château dans le sud, à Bolène, et m'y conduisit un jour, l'air mystérieux, dans une carriole à cheval, si heureux de sa surprise, que tu me demandas « Qu'est-ce que tu souhaites le plus au monde, Marceline ?» Le lendemain, nos commandos se sont encore croisés, mais nous n'avons pas osé bouger. Je t'ai vu au loin, tu étais donc là, si près de moi, maigre et flottant dans un costume rayé, mais encore magicien, homme à me faire écarquiller les yeux. Où t'étais-tu procuré l'oignon et la tomate qui avaient enchanté mon estomac et celui d'une amie? Nous n'avions qu'une eau chaude et brune au lever, dont je gardais une partie pour me laver un peu, une soupe le midi, une ration de pain le soir, avec une fois par semaine, soit la rondelle grise de faux saucisson, la cuillerée à café de confiture de betterave ou le morceau de margarine qui couvrait 2 tartines. Où t'étais-tu procuré le papier pour m'écrire? Nous n'avons rien pour nous essuyer aux latrines. Je déchirais petit bout par petit bout le caleçon d'homme taché qu'on m'avait jeté à la figure en arrivant, ravi de le raccourcir pour m'essuyer les fesses. Il me faisait honte. Je ne sais pas combien de temps sépare ces 2 moments, ces 2 signes, les derniers. Plusieurs mois, je crois, peut-être moins. Tu avais retenu le numéro de mon bloc, le premier de la rangée, la plus proche du crématoire. Tu m'avais fait porter le message. Tu n'as pas signé papa, mais de ton prénom et en yiddish, Shloïm était devenu Salomon en France. Tu étais de retour sur ta terre natale, qui n'avait pas attendu les nazis pour pourchasser les juifs. Tu avais sûrement besoin d'affirmer ton identité, ta judaïté. Dans cet univers où nous n'étions plus que des stucs, des morceaux. Tu avais peut-être même retrouvé des parents, des cousins de Pologne dans le camp. Eux t'appelaient comme ça, Shluim. Aujourd'hui encore, quand j'entends dire « papa », je sursaute. Même 75 ans après, même prononcé par quelqu'un que je ne connais pas. Ce mot est sorti de ma vie si tôt qu'il me fait mal. Je ne peux le dire que dans mon fort intérieur, surtout pas l'articuler, surtout pas l'écrire. Tu as dû me supplier de vivre, de tenir dans ton message. Ce sont des mots communs, ce que dicte l'instinct, les seuls qui restent aux hommes sensés, qui n'entrevoient pas demain. Tu as dû conjuguer ces verbes à l'impératif, mais je n'ai probablement pas cru à ce que tu m'écrivais. Pas autant qu'à une tomate ou à un oignon. Les mots nous avaient quittés, nous avions faim. Le massacre était en cours. J'avais même oublié le visage de maman. Alors, peut-être que ton nom, c'était trop de chaleur tout d'un coup, trop d'amour. Je l'ai englouti, aussitôt lu, comme une machine qui a faim et soif. Et puis, je l'ai effacé. Y penser trop, c'était laisser venir le manque. Il rend vulnérable, il réveille les souvenirs, il affaiblit et il tue. Dans la vie, la vraie, on oublie aussi, on laisse glisser, on trie, on se fie aux sentiments. Là-bas, c'est le contraire. On perd d'abord les repères d'amour et de sensibilité. On gèle de l'intérieur pour ne pas mourir. Là-bas, tu sais bien, comme l'esprit se contracte, comme le futur dure 5 minutes, comme on perd conscience de soi-même. Je ne t'appelais jamais au secours. Et quand je pensais à toi, je te voyais escorté par mon tout petit frère de 4 ans. Je ne me rappelais plus son prénom, Michel. Il ne te quittait pas d'une semelle avant notre arrestation. Où que tu ailles, il était dans tes bras ou à tes pieds, sa main dans la tienne, comme s'il avait peur de te perdre. C'est peut-être un peu de moi que je cachais dans sa silhouette de tout petit. C'était une autre façon d'appeler. J'étais ta chère petite fille. On l'est encore à 15 ans. On l'est à tous les âges. J'ai eu si peu de temps pour faire provision de toi. Je les voyais, les enfants, depuis mon bloc, qui allaient sur le chemin des chambres à gaz. Je me souviens d'une petite fille accrochée à sa poupée. Elle avait le regard perdu. Derrière elle, probablement des mois de terreur et de traque. On venait de la séparer de ses parents. On allait bientôt lui arracher ses vêtements. Elle ressemblait déjà à sa poupée inerte. Je la regardais.
Je savais ce qu'il y a de chat-huet d'angoisse dans la tête d'une petite fille. De déterminer au creux de sa main, serrant sa poupée, ce n'est pas si loin. J'allais, moi, quelques années plus tôt, avec une valise, un baigneur à l'intérieur, une boîte à mouches aussi. Tu as dû me dire, dans cette lettre, que tu étais encore là, pas très loin, et promettant que la fin de la guerre approchait, notre libération aussi. Quand était-ce, cette lettre ? L'été 44 ? Un peu plus tard ? Nous savions les débarquements et les batailles. Les nouvelles entrées dans le camp avec les derniers convois. Chaque fois, l'une d'entre nous tentait de se glisser dans le Lager A, parmi les nouvelles arrivées encore en quarantaine, en sursis, entre gaz et travail forcé. Nous y cherchions des visages familiers. Nous en revenions toujours avec des informations. C'est ainsi que nous avions appris que Paris avait été libéré, que les divisions du général Leclerc avaient défilé sur les Champs-Élysées et nous avions chanté doucement a cappella la Marseillaise le lendemain en passant devant l'orchestre qui jouait matin et soir marches militaires et autres morceaux classiques pour le départ et le retour des commandos de travail. Mais ce n'était qu'un épisode. Des nouvelles d'un monde dont nous n'étions déjà plus. Le gaz nous menaçait encore. Nous étions tout au bord. Nous ne vivions plus que le présent, les prochaines minutes. Plus rien ne pouvait nourrir l'espoir. Il était mort. Les Hongrois étaient arrivés. Des centaines de milliers. 8 à 10 transports par jour. Tu te souviens de ce flot de gens comme si des villes entières se déversaient dans le camp. Tout augmentait, le nombre et la cadence. Ils les ont déshabillés, les ont envoyés aux chambres à gaz, les enfants, les bébés et les vieillards en premier, comme d'habitude. Ce dont la mort attendrait quelques jours était parqué dans une partie qui venait d'être construite, l'amorce d'un nouveau camp, tout près des crématoires, le Mexique, nous l'appelions. Nous passions devant chaque jour en allant travailler, nous allions au Canada. C'est comme ça que les Polonaises avaient baptisé le triage des vêtements, parce que c'était le moins dur des postes de travail, celui qu'on espérait toutes, celui où l'on pouvait tomber sur un vieux croûton de pain au fond d'une poche ou sur une pièce d'or dans un ourlet. Des Françaises auraient dit le Pérou. Étrange cartographie du monde miniaturisée dans le camp en langue polonaise. Le Mexique, sans que je sache pourquoi, signifiait l'amour prochaine. Quand nous passions, certaines s'approchaient derrière les barbelés électrifiés, nous murmuraient des questions. Elles n'avaient déjà plus leurs enfants, mais elles voulaient espérer encore. Nous leur demandions « Vous avez un numéro ?»« Non, » disait-elle. Alors, nous levions les bras au ciel en signe de désespoir. Notre matricule était notre chance, notre victoire et notre honte. J'avais participé à la construction de la deuxième rampe du crématoire où venaient d'être poussés leurs enfants. J'allais maintenant trier leurs vêtements. La mort recrachait tant d'habits que j'avais été affectée en surnuméraire au Canada. Nous brassions les jupes, les dessous, les pantalons, les chemises, les chaussures de ceux qui étaient partis en fumée et dont l'odeur de chair brûlée planait sur le camp, pénétrait nos narines, nos os, nos pensées de jour comme de nuit, en nous promettant le même sort. Nous avions souvent entre les mains des habits misérables, des chaussures usées, des valises de carton bouilli. Et ils disaient que les Juifs étaient riches. Les plus abîmés de ces vêtements finiraient sur nous. Les plus beaux partiraient en Allemagne. Nous allions dans les haillons de nos morts, avec cette croix rouge dans le dos, que tu avais toi aussi. Je portais le gilet d'une morte, la jupe d'une autre morte, les souliers d'une autre encore. Mais il faut être dans la vraie vie pour que les objets, les vêtements vous rappellent quelqu'un. Là-bas, il y en avait trop. Il n'évoquait plus personne. Les nazis avaient changé ses vêtements en montagne sur lesquels ils circulaient à vélo. une cravache à la main et un chien qui aboyait devant eux. Merci pour votre écoute et on se retrouve, je l'espère, au mois de décembre pour la formule originale de votre émission Mot de passe. À bientôt.